service politique de RFI. Merci à vous, auditeurs, de nous écouter sur RFI. Tout de suite, Accent d'Europe. À tout à l'heure.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir. Deuxième jour de la dernière semaine de Topette avant la fin de 2025, tout simplement, puisqu'ensuite nous serons en vacances. On va prendre un petit repos bien mérité avec Sidonie qui, voilà, c'est les conditions du live, est partie du studio précipitamment pour accueillir Anaïs, qui normalement, la daronne angevine, sera avec nous pour 18h36. La chronique qui explore les méandres, les difficultés, les joies de la parentalité à Angers, mais partout, hein, c'est un peu des concepts universels. J'essaie de combler le temps en attendant qu'elle arrive, mais je crois qu'on va pas avoir le temps de lui laisser le micro, donc c'est pas grave, on va continuer, on va présenter nos invités, puisque nous serons avec le CCJC, le Centre Culturel Jean Carmet de Mur-Érigné. C'est Lucie, l'assistante programmation du CCJC, qui sera avec nous pour nous parler de petits détournements et aussi de 82. Alors 82, elle est même venue avec Richard, c'est lui qui a mis en scène 82, enfin qui a commis en scène avec Thierry et Rémi. Il est avec nous, il va tout nous expliquer dans quelques instants. Sidonie, bonsoir.
Bonsoir.
C'est bon, Anaïs, t'as pu la récupérer en bas?
Oui, c'est bon.
Et ben voilà, Topette, toutes les conditions sont réunies pour commencer cette émission. Et c'est parti.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Ça va, Anaïs? Ah bah, elle est en train de se manger, oui. Ça va, c'est bon, on va pouvoir tout à l'heure?
Je suis là.
Ok. Très bien. Eh bien, parfait. On fait d'abord un point sur l'actu, ensuite on reçoit nos invités, et après on fera la daronne angevine. Mais avant tout ça, Sidonie pour les actus.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G. Impossible de passer à côté, samedi 13 décembre au soir, dans le centre-ville d'Angers. De nombreuses motos illuminées, des sirènes et des moteurs, mais surtout des pilotes déguisés en Père Noël et Mère Noël. La balade nocturne solidaire de la FFMC 49 a transformé les rues angevines en cortège festif et engagé. Un événement spectaculaire, presque aussi visible et audible qu'un feu d'artifice, mais dont l'objectif était bien concret, la solidarité. 6 euros par casque, dont 5 euros reversés à l'association Rêve, qui aide à réaliser les vœux d'enfants gravement malades. Une mobilisation qui rappelle que la communauté motarde, souvent associée au bruit ou à la contestation, sait aussi se faire messagère de générosité. Dans une période marquée par l'inflation et les tensions sociales, cette initiative montre que la solidarité locale reste un moteur puissant, parfois plus audible qu'un discours politique. Autre ambiance, autre tempo, mais toujours le même territoire qui évolue. Depuis le mois de novembre, Tyler Trucks a ouvert sa boutique aux 8 rues Brissigny en plein cœur d'Angers. Une maison née à Paris, spécialisée dans le vêtement sur mesure, qui choisit Angers pour poursuivre son développement. Un signal intéressant à l'heure où de nombreuses enseignes ferment boutique. Ici, on mise sur l'expérience et le savoir-faire. Costumes, tailleurs, smoking, chemises, le vestiaire se veut complet, pour hommes et femmes, avec des tissus issus de grandes maisons comme l'Europiana ou d'Ormeuil. À l'image de certaines villes moyennes qui montent en gamme, Rennes, Nantes ou Tours, Angers confirme son attractivité pour des concepts premium mais accessibles. Une élégance discrète à l'angevine qui s'inscrit dans un centre-ville en pleine recomposition. Enfin, regard sur l'économie régionale avec les derniers chiffres de la Banque de France. Au niveau national, l'activité repart doucement, tirée par l'industrie, notamment dans l'électronique et l'agroalimentaire. Mais dans les Pays de la Loire, le tableau est plus contrasté. L'industrie régionale marque le pas en novembre. Pas d'effondrement, mais un repli, là où le reste du pays progresse encore. Les entreprises maintiennent leur effectif comme s'ils retenaient leur souffle, dans l'attente de jours meilleurs. Les services marchands, eux, font du surplace. L'activité tient, mais la trésorerie se tend, un peu comme un élastique déjà bien étiré ces derniers mois. Et surtout, le bâtiment qui inquiète. L'activité ralentit nettement, les devis baissent, et les perspectives pour décembre restent sombres. Un secteur souvent considéré comme un baromètre économique et qui, pour l'instant, indique plutôt la pluie que le beau temps. Malgré tout, la région fait preuve de résilience. Les carnets de commandes tiennent, l'emploi résiste et la croissance nationale attendue autour de 0,2% au dernier trimestre laisse espérer une stabilisation avant peut-être une relance en 2026.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup, Sidonie. Sidonie, tu restes avec nous. On va partir en actualité culturelle ce soir puisqu'on accueille nos invités du CCJC.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir, on va commencer par Lucie. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Assistante de programmation au Centre culturel Jean Carmet de Mur-Hérimier, partenaire de l'émission et de la radio. On te voit, on t'entend au moins une fois par mois, du coup
oui,
c'est le concept, pour nous partager les actualités culturelles héri-muroises qui viennent de Mur-Hérimier. Et ce soir tu es venu avec Richard. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Toi tu vas nous parler de 82. Alors c'est toi qui as créé 82 et c'est mis en scène par Thierry Delhomme et c'est avec des poèmes notamment de Rémi Cecchetto, c'est bien ça?
Oui c'est bien ça.
Et ce sera le 16 janvier, de quoi bien commencer l'année 2026, ce sera au Centre culturel Jean Carmet de Mur-Hérimier. On va t'entendre dans quelques instants Richard, mais avant tout ça, Lucie, qu'est-ce qui se passe de beau au Centre culturel du côté de Mur-Hérimier? La fameuse question, est-ce que le Père Noël est venu, viendra pas, est-ce qu'on a des choses comme ça?
Eh bien, vendredi, il y a un marché de Noël à l'espace Bellevue à Mur-Hérimier, donc vous pouvez venir, il y aura une petite fanfare, ça va être très sympathique. Et sinon, on se prépare pour rien à fêter le 31 décembre. Et si vous souhaitez venir, je vous conseille vivement de réserver le plus vite possible parce qu'on est sur les dernières places. Donc, on va pas tarder à afficher complet. Donc, c'est une super nouvelle et ça va être une soirée vraiment géniale.
Ouais. J'essaie de retrouver le nom des deux personnes qui étaient venues.
Le collectif, pardon. Intérieur Mouquette, oui.
Exactement. Un très bon moment. Donc, c'était le podcast du mois précédent. Si
exactement.
Vous donner un aperçu de l'ambiance que proposent les personnes qui vont, parmi les personnes qui vont organiser cet événement. Donc, de quoi passer un bon moment au CCJC pour le 31. Et avant tout ça, du coup, j'essaie de prendre la date. Ah non, ce sera plus tard dans le temps. On va pas dans le bon ordre chronologique.
Le petit détournement, oui. C'est exactement. Le 30 janvier.
Le 30 janvier, alors là on va pouvoir faire du doublage improvisé, ou voir du doublage improvisé.
Oui, ça va être, c'est une belle date originale, on se pose pas forcément la question de comment ça se passe, et je trouve que ce spectacle, le petit détournement, va être intéressant pour les gens, pour voir comment ça s'organise. Donc ça va être le petit détournement, donc c'est de la compagnie La Poule, donc c'est le 30 janvier au CCJC à 20h30. C'est un spectacle de doublage d'extraits de films en direct et en impro. Donc on a des comédiens qui vont prêter leur voix à des extraits de films qui sont emblématiques. Donc je vous dis pas lesquels parce que ça reste la surprise. Et ils vont réinterpréter en direct des scènes et ils vont être accompagnés d'un musicien qui lui aussi va jouer en impro sur différents extraits. Et on aura un maître de cérémonie qui va pouvoir présenter les différentes thématiques. Donc parfois, il y aura des passages en duo, deux acteurs en duo, ou tout seul, ou le musicien seul. Et donc, ça va durer pendant 1h30, ça va être super intéressant et ça va être une belle soirée.
La compagnie La Poule, est-ce que tu as des informations à propos? C'est la première fois que j'entends parler, de cette compagnie. Elle est du coin ou elle est de...
Des Pays de la Loire, de Nantes.
De Nantes.
Voilà. Et c'est pas la première fois qu'ils présentent ce spectacle. Ils ont commencé il y a 10 ans. Ils ont commencé petit sur ce spectacle et ils ont grandi. Ça a été un succès grandissant. Et c'est un incontournable maintenant sur Nantes. Et donc, on va pouvoir les découvrir à Mur-Hérimier, oui.
C'est très à la mode, j'ai l'impression, le doublage. À l'heure où l'IA pose question par rapport au métier, j'ai l'impression qu'on voit du doublage un peu partout maintenant sur les réseaux. Dans
c'est
les
ça, il y en a qui s'essayent, mettent des petites vidéos sur leur télé, ils se font des soirées doublage sur des petits personnages et parfois ça peut être très marrant en famille de s'y essayer. Et donc là, de le voir en vrai avec des comédiens sur des extraits qu'on peut connaître, sur des films emblématiques, je pense que ça va être sympa.
Toi Richard, est-ce que tu t'es déjà essayé au doublage? Est-ce que c'est une compétence, un exercice dans lequel tu as déjà été?
Non, mais j'ai vraiment de l'intérêt pour ça. Voilà, je suis assez sensible au son en général. Et ouais, j'aimerais bien un jour faire l'expérience de ça.
Ouais. Ouais. Sidonie, toi, est-ce que tu vois est-ce que tu consommes des contenus de doublage? Est-ce que tu prends plaisir des fois sur les réseaux, des TikTok, à voir des gens doubler des scènes?
C'est vrai que
si tu allumes pas mon micro, ça va pas marcher. Mais c'est vrai que voir des petites vidéos, des fois, c'est assez rigolo. Et même, bah, justement, j'ai déjà fait des soirées avec des potes où, bah, on savait pas trop quoi faire. On a mis du doublage à la télé et on a bien rigolé.
Mais oui, c'est super sympa. Bah, s'il y en a qui savent pas quoi faire au Nouvel An et que rien n'a fait des complets, ils peuvent faire une soirée de doublage. Ou alors venir au 30, venir voir les acteurs, les comédiens, ouais, prêter leur voix.
On connaissait les karaokés, maintenant c'est vrai qu'il y a les soirées de doublage qui se dessinent. Anaïs, est-ce que toi tu as déjà eu l'occasion de doubler ou de t'essayer à cette discipline assez particulière, hein? En plus de la voix, il faut quand même vraiment de la spontanéité et un jeu de comédie assez développé.
Alors, j'ai jamais essayé et je connaissais même pas ces soirées où effectivement on peut s'essayer au doublage et ça peut être hyper drôle. Mais par contre, je retiens l'idée de la soirée du 30 janvier qui a l'air vraiment chouette et tout public, j'imagine. Donc
oui,
avec
tout
des
public.
Enfants,
les enfants,
grands,
ils peuvent venir. Oui.
Tu vois, ça me tente carrément.
C'est une proposition quasiment unique dans la programmation du CCJC, j'imagine, Lucie.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est l'unique date sur du doublage improvisé. Oui.
Est-ce qu'on a des dates comme ça qui seront peut-être un petit peu moins théâtrales ou qui vont aller explorer d'autres médiums ou pas, si on avance un peu dans la programmation ou si c'est des choses qui ont...
Vraiment, doublage comme ça, c'est vraiment l'unique. Sinon, on a des concerts, on a des représentations théâtrales, on a le festival Ça Chauffe aussi qu'on va bientôt accueillir. D'ailleurs, la programmation est sortie, la billetterie est ouverte depuis hier. Sinon, on a ce qui sort un peu, on va accueillir l'Angers Comedy Club le 3 avril. Ils vont investir les lieux et ça va être une belle soirée d'humour, donc ça va être plutôt sympa aussi.
Voilà, du stand-up, une autre discipline. Alors nous, on a la chance de t'avoir ici sur le 101.5 FM pour connaître un petit peu la programmation, nous parler des spectacles. Si jamais on veut déjà se renseigner ou commencer à réserver absolument maintenant tout de suite nos places, notamment pour Rien à fêter, je crois qu'il en reste
ça.
Un tout petit peu.
Il en reste, ouais. Alors,
il en reste trois, allez, dépêchez-vous.
Alors pas trois, un peu plus de trois, mais on est pratiquement en haut de la jauge. C'est simple, sur notre site internet, on a l'agenda culturel avec tous les renseignements. Donc, si on a une petite question, soit nous appeler directement au Centre culturel Jean Carmet, ou alors vous rendre sur le site et il y a un lien billetterie. Vous pouvez prendre vos places sur le site sécurisé. C'est sur Mabado. Donc, très simple. Et voilà. Et s'il y a un souci, sinon, vous pouvez venir nous voir directement au Centre culturel. On a des heures d'ouverture de billetterie. Et Margot, notre nouvelle collègue, va vous accueillir avec sa gentillesse légendaire.
Et on a même le numéro de téléphone qu'on va retrouver le temps de la pause musicale. On va vous le donner, sinon, et bien évidemment qu'il est partout sur le site internet. Tu l'as déjà sous les yeux ?
Je l'ai sous les yeux. Alors, c'est au 02 41 57 81 et 85.
Voilà. Bon, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire. Sinon, vous pouvez le retrouver effectivement
sur le site internet.
Sur le site internet, tout à fait. On écoute Go 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 Sinai de Gondawa et on revient ensemble juste après. Ottawa et Gogo Sinai sur le 101.5 FM. Dans quelques instants, je crois savoir qu'on va parler d'accouchement avec Anaïs et la daronne angevine. Voilà, si jamais vous êtes concerné, bah restez à l'écoute de Topette ou si vous êtes intéressé. Mais avant tout ça, nous restons avec les actualités culturelles éri-muroises avec Lucie Richard qui ne s'attendait pas à cette thématique, j'ai l'impression, à son annonce. On a parlé du petit détournement qui a déjà au moins quelques places en moins, Lucie,
oui.
Ça va très vite, hein, décidément. C'est le 30 janvier, on rappelle quand même les dates et puis ce que c'est.
Le 30 janvier, un spectacle de doublage d'extraits de films. Voilà.
Voilà, improvisé avec musique en direct.
Musique, un musicien sera là, des comédiens vont prêter leur voix à des extraits de films emblématiques, différentes thématiques abordées. Il y aura un maître de cérémonie qui présentera les extraits et les thématiques. Et donc voilà, ça fait 10 ans quand même ce spectacle est né depuis 2015 par Jérémy Sanagueal. Je sais pas si c'est anglais ou breton peut-être. Et donc ça promet d'être une super bonne soirée.
Voilà, avec du doublage notamment sur le film j'essaie de te piéger sur le fait
piéger.
De donner...
Non, je ne dirai rien.
Bah, ce sera un secret. Il faut venir pour savoir. Maintenant nous allons, alors je ne sais pas si on va remonter dans le temps ou pas, en tout cas on parle de 82 avec toi Richard Fouillet, de la compagnie, Les Têtes d'Atmosphère, dont tu fais partie, et avec Thierry Delhomme et Rémi Cecetto, bah, tu proposes 82. Alors tu m'as vaguement parlé de poésie, tu m'as parlé de mise en scène bien évidemment, aussi de l'intervention de Benoît Rey via très ponctuellement. Alors je visualise pas tout à fait encore de quoi ça parle, il s'agirait de théâtre, mais je compte sur toi Richard pour nous expliquer un peu de quoi parle 82.
Le point de départ de 82, c'est le football. En 1982, il s'est passé un match dramatique, une dramaturgie shakespearienne, France-Allemagne 1982 à Séville.
La nuit de Séville.
Voilà. C'est cela. En 82 aussi, j'ai eu un rapport compliqué avec mon père. Ensuite, j'ai eu un rapport compliqué avec mon fils. Mon père a une histoire avec le foot, moi j'ai une histoire avec le foot. Et je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas m'appuyer sur ce match pour raconter un petit peu la difficulté d'être papa ou d'être parent en général, quoi. Et donc, je me suis adressé à Rémi Cecetto et je lui ai passé une commande de 5 textes à partir de termes de football. Il a pris coup franc, hors jeu. Il m'a dit que c'était un cadeau pour un auteur hors jeu. Je viens de faucher, je contrôle et je vais demander un texte du point de vue du ballon. Et voilà, je suis tout seul sur scène, je danse aussi un peu. Et voilà, et je raconte mon histoire, ça part quand même de mon histoire pas mal. Et à la suite de ça, j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Benoît Rey, qui a écrit un journal quand il était en Algérie. Il voulait pas faire la guerre d'Algérie, donc il a fait une formation d'infirmier. Et il a écrit un journal. Et dedans, il y a des choses assez difficiles. Et je cherchais une chose très très difficile. Du coup, j'ai trouvé. Et voilà, c'est une partie de lecture que je fais dans le spectacle à un moment. Voilà. Et puis je l'ai joué maintenant une dizaine de fois. Et j'ai été accueilli par Jean Carmet en juillet. J'ai fait un teaser qui est sur Insta à spectacle.82. Et là, j'ai la chance de jouer le 16 janvier à 20h30 dans ce même lieu que j'adore avec une équipe au top.
Alors là, ça promet d'être très intéressant. Là, on mixe énormément d'univers avec des ponts entre le football et la parentalité, c'est ça si je comprends bien. Alors,
comment, oui, c'est exactement ça.
Comment est-ce qu'on peut avoir un aperçu de comment, dans ta démarche, tu fais le lien avec ça, qui du coup est basé sur ton histoire aussi très personnelle, je crois comprendre.
Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que je m'appuie sur les catastrophes et les péripéties de ce match, et après je fais un parallèle sur ma propre histoire. Voilà. Une fois le match, une fois mon histoire, une fois le match, une fois mon histoire. En fait, c'est un conférencier, il arrive, il est passionné par le match, et il va raconter le match. Voilà. D'une façon vraiment presque... comment dirais-je... passionnante. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, il est vraiment passionné par ce match. Et d'un seul coup, voilà, on n'a pas l'impression, et il va parler de sa mère. Voilà.
Alors, la nuit de Séville, 1982, du coup, faut peut-être donner du contexte si tu as quelques éléments à nous prodiguer, Richard. Parce que Sidonie, par exemple, demi-finale France-Allemagne à Séville en 1982, ça ne te parle pas, j'imagine.
Du tout. Alors, je ne connais pas ce match.
Alors, sur les faits, Richard, est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé ce soir-là?
C'était France-Allemagne. C'était l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Parce que l'Allemagne était encore séparée en deux, puisqu'il a fallu attendre 89 pour voir la chute du mur de Berlin. Et même y entendre Rostropovitch faire quelques fausses notes liées à l'émotion du moment. Et donc, l'Allemagne, c'était l'équipe favorite, qui a toujours battu la France. Et pour la première fois, la France avait l'occasion, vraiment, c'était à deux doigts, de battre l'Allemagne. Tout le monde y a cru, et ça s'est pas fait. C'est pour ça que c'est une dramaturgie shakespearienne. Et ça a choqué beaucoup de gens. Tout le monde s'en souvient de ce match. Il y a eu un événement assez dramatique entre le gardien allemand, qui s'appelait Schumacher, qui s'appelle encore Schumacher d'ailleurs, et voilà, qui a blessé un joueur français. Et voilà, ça a marqué les esprits. Et voilà, c'est pour ça que je voulais m'appuyer sur ce match que j'ai vu et que j'ai partagé avec mon père aussi. Et voilà, et en 82, voilà, donc c'est, ils ont été en demi-finale. Et c'était la première fois qu'ils étaient en demi-finale depuis 1958 en Suède, c'était jamais arrivé. Et depuis, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et voilà.
En 58, avec juste Fontaine qui avait battu le record de buts marqués, je crois, dans
oui, c'est
la
ça.
Compétition. Ouais.
Voilà. 13 buts, oui, exact.
Qui a été inégalé encore.
Inégalé, et ils étaient allés qu'en demi-finale seulement. Et voilà.
Voilà. Quoi, en 1982, ce qui est, si je comprends bien, du coup, le foot, ça montre à quel point aussi le sport, hein, d'une manière générale, ça véhicule des émotions, ça crée les passions. Tu parlais de passions tout à l'heure, de choses passionnantes. En 82, on est encore sur un foot qui est pas confidentiel, mais qui est pas ultra démocratisé. On est avant 98, on est longtemps avant 98. Et pourtant, toi, au sein de ton noyau familial, c'est quelque chose qui te lie à ton père, c'est ça?
Oui, parce qu'il a failli faire un parcours professionnel au SCO d'Angers. Et moi-même, j'ai fait un parcours professionnel au SCO d'Angers. Et j'ai refusé de le faire, d'ailleurs. C'est, voilà. J'ai dit à mon père, je ne serai pas footballeur et je t'emmerde.
Et ça, j'imagine que c'est un peu dans les termes du contrat du spectacle, c'est ça qui est...
C'est dans le spectacle, voilà, c'est tout ce que je vais dévoiler.
Ainsi, on s'intéresse du côté du public, parce que c'est vrai que, vu comme ça, ça pourrait penser qu'il faut avoir une culture footballistique, ou alors à qui on peut s'adresser, les spectateurs, spectatrices, le rapport père-fils, mais peut-être mère-fille aussi, qui peut se projeter comme ça?
Oui, oui, complètement, c'est le rapport sur la parentalité, et... Bon, bien sûr, ce match, en fait, c'est un prétexte pour parler de la parentalité, en fait.
Et ensuite, tu as vécu la même histoire avec ton fils, et ça aussi, on le voit sur scène.
Oui.
Alors, je me tourne vers toi, Anaïs, en quelques instants, avant que je vois que tu prépares ta chronique qui va avoir lieu dans quelques minutes. Ça tombe bien, justement, la parentalité, ça te parle. Est-ce que tu te reconnais, ou est-ce que ça te parle, justement, ce côté... Enfants, parents, identification, est-ce qu'on fait comme nos parents? Est-ce qu'on suit les pas de nos parents? Est-ce que, alors toi en tant qu'enfant, et puis toi aussi en tant que parent par rapport à tes enfants, s'ils ne suivent pas tes pas?
C'est une question hyper profonde, parce que je pense que quand on vient de parents, on se pose la question de quel parent je veux être, et j'ai eu un modèle, est-ce que je veux reproduire ce modèle ou est-ce que je veux faire différemment? Tout le monde ne se pose pas la question déjà. Mais en tout cas, oui, c'est une question, je pense, que notre génération se pose de plus en plus. J'espère que mes enfants feront comme ils auront envie de faire. Et je fais bien comme je peux avec l'exemple que j'ai eu, qui je suis et la société qu'on a aujourd'hui.
Est-ce que 82, Richard, justement, c'est un peu un conseil pour les parents? Comment gérer le fait d'être un enfant et un parent?
Oui, bah de se sentir libre et puis de remettre en cause peut-être même l'éducation qu'on a reçue pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, quoi.
Lucie, je sais pas, t'as peut-être pas pu voir le spectacle 82 encore, ou en
non.
Filage, ou...
Donc pas là, encore.
C'est quasiment une découverte totale aussi pour toi?
Oui, j'en ai entendu parler, je me suis un peu renseignée, mais c'est avec plaisir que je viendrai te voir.
Est-ce qu'on aura un ballon sur scène, Richard?
Ah, oui.
Peut-être pas. Bon, en tout cas, on découvre un petit peu plus davantage. S'il y a encore des choses à dire sur le spectacle 82, cette pièce de théâtre que tu proposes, Richard Fouillet, avec donc mis en scène par Thierry Delhomme et avec sur des poèmes de Rémi Cecchetto, et avec une petite apparition de Benoît Rey via un texte, c'est ça, que toi-même tu interprètes, hein?
Oui, que voilà, j'ouvre le livre, je déclame un passage du texte.
Voilà, ce sera le 16
qui s'appelle,
janvier.
Pardon, vas-y. Qui s'appelle Les Égorgeurs.
Les Égorgeurs, le 16 janvier sur les planches du Centre culturel Jean Carmet de Mur-Régné. Tu restes avec nous, Richard, bien évidemment. Tu parles de parentalité sur la thématique de ton spectacle. Bah, on va rester dans le thème de la parentalité au sens large avec la chronique de la daronne angevine, maintenant dans Topette.
Bonsoir.
Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de choix, de droit, de naissance et d'accouchement. Je vais profiter de cette tribune pour apporter tout mon soutien aux sages-femmes et plus particulièrement à celles qui pratiquent l'accouchement à domicile. Je pense aujourd'hui notamment à Elena Legal, sage-femme alignée en Loire-Atlantique, qui se voit aujourd'hui contrainte d'arrêter son activité suite à une décision de l'ARS. Le 9 octobre dernier, elle reçoit une notification, suspension de 5 mois effective du jour au lendemain. Une suspension qui concerne non seulement son activité d'accouchement à domicile, qu'elle pratique, mais aussi tout le suivi qu'elle fait en cabinet. Il est important de le rappeler, une sage-femme, ce n'est pas juste la personne qui est là le jour de l'accouchement. La sage-femme accompagne une femme pendant la grossesse, en postpartum, à domicile, pour la rééducation du périnée, la contraception, la sexualité, le suivi gynécologique. Bref, un suivi global précieux, d'autant plus que dans certains territoires, il est impossible de trouver un gynécologue qui prend de nouvelles patientes ou qui propose des délais acceptables. Elena, elle exerce depuis 15 ans. Elle a accompagné près de 800 naissances à domicile. 800. Il n'y a aucune plainte ni signalement de patiente contre elle. Aucun drame. Les femmes vont bien, les bébés vont bien et les familles la remercient. Comme elle le dit elle-même, ce n'est pas de la chance. C'est un travail fait avec rigueur, compétence et expérience. Elle a été convoquée le 12 décembre au tribunal administratif de Rennes, où elle a enfin pu être entendue. La décision finale sera rendue fin décembre. Un comité de soutien a été créé pour l'accompagner et la soutenir. Pour remettre un peu dans le contexte, en France, il y a environ 25 000 sages-femmes. Et seulement 100 pratiquent l'AAD, accouchement accompagné à domicile. Les naissances à domicile représentent 0,2% des naissances en France. On parle d'une pratique ultra minoritaire. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que tout cela a un lien profond avec la maternité et la parentalité. Parce qu'on ne devient pas parent de la même manière selon la façon dont on a vécu son accouchement. J'ai vécu un accouchement traumatique en maternité. J'ai vécu les violences obstétricales et les violences du système. Et derrière, le retour à domicile, il est difficile et la parentalité démarre dans la douleur. Alors, quand je suis retombée enceinte, une chose était claire, je ne mettrai plus jamais les pieds en maternité. Ma seule option à l'époque, c'était donc d'accoucher chez moi, à la maison. Il y a une seule sage-femme qui propose les accouchements à domicile à Angers, en congé maternité, au moment de ma grossesse. Vraiment, sans Elena, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Elena m'a écoutée, Elena m'a accompagnée, et j'ai pu vivre la naissance que j'avais choisie. Accoucher à domicile, ce n'est pas un caprice, c'est un choix éclairé, encadré et réfléchi. Ce choix doit pouvoir exister. L'accouchement à domicile est un droit, parce que donner naissance, c'est aussi une question de dignité, de respect et de liberté.
Merci beaucoup. C'est très intime les sujets qu'on évoque là. On est sur deux thématiques de parentalité successives dans Topette. C'est pas fait exprès, mais c'est très important de l'aborder. Est-ce qu'on peut te poser des questions?
Ah bah bien sûr. Évidemment, moi je suis disponible sur ma page Insta, la Daronne Angevine. Après, je ne suis qu'une humble femme qui a eu des enfants et qui a mis au monde des enfants et qui essaye d'éduquer ses enfants donc, comme elle peut. Mais en tout cas, oui, je suis hyper dispo et j'adore ça, échanger, donc il n'y a pas de problème.
Voilà, en témoignage, en échange, en tout cas, ça peut éclairer encore une fois certaines personnes qui sont aussi dans ce projet-là. On fait une nouvelle pause musicale dans Topette et on revient ensemble juste après. On parlait de naissance, là, on écoute Renaissance d'Auristel.
Thank you.
Renaissance d'Oristel sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes à l'écoute de Topette. Topette qui est finie pour ce soir. On est toujours avec nos invités de la soirée, Lucie et Richard, respectivement Lucie pour parler du CCJC et Richard pour parler de son spectacle 82 qui sera le 16 janvier au CCJC. CCJC, vous savez ce que ça veut dire, Sidonie, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Le Centre culturel Jean Carmet à Mur-Érigné. Mais avant tout ça, on a parlé d'un spectacle que Anaïs a adoré. Ça y est, les places sont prises. Bah tiens, qu'est-ce qui t'a séduit toi dans le spectacle du 30 janvier, Petit détournement ?
Alors, ce qui m'a séduite, déjà, c'est un tout public, donc je vais pouvoir y aller avec mes enfants et leur faire partager ce moment-là. Il y a de l'impro, il y a du doublage, il y a des références cinématographiques, il y a un musicien sur scène, il y a un maître de cérémonie, ça va être vivant, c'est parfait.
Tu as tout résumé.
Comment mieux convaincre d'y aller, Lucie, à ce spectacle ?
Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ?
Est-ce qu'on peut convaincre encore mieux que ce qu'a fait Anaïs pour aller voir ce spectacle ?
Il y a un haut level déjà.
Bon, en tout cas, c'est vraiment aller voir, hein. Du doublage, en plus, c'est très...
Ouais, c'est rare. Ça tranche avec... avec tous les... Enfin, je veux dire, notre programmation est très éclectique et c'est ça qui est génial. Et ce doublage, ça rajoute de l'originalité déjà dans cette programmation qui propose différentes thématiques, différentes disciplines. Donc c'est vraiment chouette. Ouais.
Ouais, une discipline qu'il faut préserver, hein, comme tous les arts vivants. Mais,
oui.
Et là, d'autant plus avec ce danger de l'IA qui guette.
Ouais.
Le doublage automatique. Et vraiment, c'est pas facile pour
c'est
les...
C'est pas facile, mais je pense quand même les comédiens, ils sont pas... remplaçable quoi. C'est ajoutent de quelque chose d'humain, des émotions encore plus fortes. Donc non.
Et c'est pas Richard qui va contredire ses propos.
Non, aussi bien dans la voix que dans le corps. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Gianni Joseph, issu du Centre dramatique de danse contemporaine d'ici. Voilà, qui a composé la danse du début du spectacle. Voilà, l'IA non plus ne pourra rien contre ça.
Ah non, et l'IA, parce que juste pour rebondir sur ce que tu dis avec la voix aussi, hein, on entend la voix, mais les comédiens et comédiennes bougent énormément en fait au micro quand la voix est captée. Donc c'est pour ça le corps est très important, le corps qu'on peut voir en mouvement, et puis ta voix aussi, Richard, sur ce spectacle 82. Si on doit résumer ça, j'ai l'impression que c'est extrêmement intime. En fait, tu te dévoiles, c'est presque autobiographique d'une certaine façon. En tout cas, dans l'émotion.
En grande partie, oui.
En grande partie, ouais.
Oui.
Comment on pourrait donner envie sans donner l'impression que c'est trop axé foot, parce que du coup avec le nom ça peut laisser penser qu'on va parler beaucoup de foot, même au travers des poèmes, mais c'est surtout le lien père-fils, fils-père.
Exactement. C'est un prétexte, le match, pour parler de ça en fait. Voilà.
Ça dure combien de temps le spectacle ? On ne l'a pas dit, je
55
crois.
Minutes.
Donc c'est très accessible là aussi.
Ah oui, à partir de 12 ans.
Pour toutes les familles, pour famille, tout public.
Voilà. Tout public.
Concernant le reste de tes actualités, avant de se quitter, est-ce que tu as d'autres choses en cours ? Est-ce qu'il y a d'autres dates ailleurs qu'au CCJC pour 82, par exemple ?
Oui, je vais jouer le 9 janvier à la Fraternité à Saint-Nazaire. Ensuite, le 24 janvier à l'Asso, à Sceaux d'Anjou. Et après, voilà, on fait un travail de diffusion en ce moment pour pouvoir le montrer. Et on a un joli projet qui va se faire entre le... avril 26 et avril 27 dans un centre de détention à Argentan où je vais faire des ateliers d'écriture avec Rémi Chéchetteau, avec Valentin Dedon aussi, qui a déjà fait des ateliers d'écriture là-bas. On va faire venir un jongleur freestyler pour faire du jonglage avec eux. On va les mettre en scène et à l'issue de ça, on va jouer 82. C'est un beau projet, voilà, sur un an.
Est-ce que tu as le nom du jongleur ou pas ? Non, c'est quelqu'un d'ici peut-être ?
Non, de Nantes.
De Nantes. Voilà. Par contre, Valentin Dedon, c'est quelqu'un d'ici. On le
connaît.
Oui,
c'est quelqu'un d'ici. Bah
qui
oui.
anime notamment l'émission Albertine.
Eh oui.
Voilà, un lundi sur deux à 13h, qui fait parler nos grands-mères, enfin qui nous fait parler de nos grands-mères. Voilà, donc on vous encourage.
Oui, je l'aime beaucoup. Ouais. Et tous ses bouquins, c'est à partir du foot à chaque fois. Et on s'est rencontrés. Il était venu faire une pige sur le spectacle quand il était avec la Dalle Angevine, voilà, sur nos journal web. Maintenant, il est simplement auteur. Et voilà, on a décidé de travailler ensemble.
Richard et Valentin qui montrent qu'il y a aussi de la poésie, du spectacle et des émotions dans le foot, au-delà du côté très ou trop populaire, dans le côté un peu péjoratif.
Complètement.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans Topette ce soir, Richard, pour nous parler de 82. Merde, pour le 16 janvier et puis pour toutes les autres dates que tu as annoncées. Lucie, on se revoit dans un mois ?
Oui, on se revoit dans un mois.
Après cette non-fiesta du 31 ?
Ah oui.
d'un tout petit mot. Il reste quand même des places, donc réservez-vous, réservez-les si vous pouvez.
Ouais, bah je pense d'ici la fin de semaine, ça va être complet. Ouais.
Bon, bah dépêchez-vous vraiment. Et puis bah bonne fête de fin d'année à vous deux, Anaïs aussi. On se retrouve l'année prochaine. Sidonie, nous on se retrouve demain normalement à partir de 18h10. Et puis on va se quitter avec la minute biodive. On s'intéresse au canard péteur. Prenez soin de vous. À demain. Et topette.
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 Une respiration, un instant. La minute biodive de Topette.
Bienvenue dans la minute biodive avec la LPO Anjou. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire assez incroyable qui s'est passée cet été. On a déjà parlé ensemble du râle des genêts, un oiseau en déclin dans les basses vallées angevines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sauvetage de râle des genêts. L'histoire commence le 30 juin 2025, alors que deux salariés de la LPO Anjou participaient à un suivi de fauche. Un suivi de fauche, ça veut dire qu'on accompagne les agriculteurs alors qu'ils fauchent leurs parcelles. Et ça pour deux raisons. La première, c'est parce que ça permet d'avoir des yeux en plus pour scanner la parcelle et essayer de trouver les nids ou les oiseaux qui courent avant que la faucheuse ne les tue. La deuxième, c'est pour pouvoir conseiller les agriculteurs sur la vitesse de fauche, le sens, etc. Tout ça pour qu'on épargne le plus d'individus possible, tout en maintenant l'activité agricole. Et lors de ce suivi de fauche, ce fameux 30 juin, malheureusement, un nid a été fauché. Mais dans notre malheur, il y avait un petit espoir. Sur 11 œufs, 3 paraissaient intacts. On les a donc récupérés pour les mettre en couveuse, avec l'autorisation des autorités compétentes. Parce que pour rappel, puisqu'il s'agit d'une espèce protégée, il est interdit de détenir des individus de cette espèce. Avec cette autorisation express, la course contre la montre était lancée. Il fallait absolument qu'on trouve un centre de soins capable d'accueillir les œufs, d'assurer la couvaison, puis l'élevage des poussins, pour qu'ils puissent être relâchés dans la nature. Il faut savoir que ça n'a pas été une mince affaire, parce que ce genre de manœuvre n'avait encore jamais été tenté. Mais on y a vu une opportunité. Au final, c'est le centre de soins Beauval Nature qui a accueilli nos 3 œufs. Et une fois qu'ils étaient arrivés à bon port, on a pu voir que seuls 2 des œufs étaient viables. Le centre de soins s'est fait conseiller par un réseau d'éleveurs de l'espèce pour connaître la marche à suivre pour les nourrir, leur apprendre à se nourrir tout seul et leur assurer un futur dans la nature. Grâce à cette expérience, ils ont maintenant un protocole pour cette espèce, ce qui pourrait être utile dans le futur. Tout s'est bien passé lors de l'élevage, les 2 individus se sont bien développés, quoique un peu en dessous des moyennes qu'on remarque dans la nature. Ils ont pu apprendre à trouver leur nourriture tout seuls et ils ont appris à voler dans une volière. Ils sont restés farouches, ce qui est bon signe pour le relâcher. Le centre de soins a même pu déterminer leur sexe grâce à des analyses génétiques de plumes, et il s'agissait de 2 femelles. Et pendant que le centre de soins prenait soin des 2 poussins, de notre côté, on cherchait le lieu parfait pour le relâcher. Le râle des genêts est un petit oiseau exigeant, donc le choix du lieu n'est pas à prendre à la légère. Au final, notre choix s'est porté sur une parcelle sur la commune d'Écoufflant. Selon nos critères, c'était le meilleur lieu de relâcher que l'on pourrait trouver aussi rapidement. Les herbes étaient hautes et les agriculteurs étaient d'accord pour laisser les herbes hautes jusqu'au 15 septembre au moins, le temps que les jeunes râles s'habituent à la vie sauvage et partent en migration. Le 26 août, 2 jours avant le relâcher, Frédéric Giguet, un chercheur du Muséum National d'Histoire Naturelle, le MNHN, et Ryan Boswartik, qui mène une thèse CIFRE sur le râle des genêts, sont venus au centre de soins Beauval Nature pour baguer les jeunes et les équiper de balises GPS pour pouvoir suivre leur évolution après le relâcher. Les 2 individus ont été bagués. Pour faire simple, ça veut dire qu'ils ont été équipés d'un anneau qui est posé autour d'une patte avec un numéro d'identification unique. Ce numéro, il sert à donner certaines données sur l'individu à ceux ou celles qui pourraient le retrouver dans le futur. Son année de naissance, son poids au moment du bagage, l'endroit où il a été bagué. C'est un moyen de suivre les déplacements des oiseaux et d'en savoir plus sur leur mode de vie. En revanche, pour la balise, c'était un tout petit peu plus compliqué. Pour que les oiseaux puissent vivre confortablement avec la balise, elle ne doit pas dépasser plus de 3% du poids total de l'oiseau. En pesant les 2 jeunes, on s'est rendu compte que l'un d'entre eux était beaucoup trop léger pour accueillir la balise. Donc Ryan et Frédéric n'en ont balisé qu'un seul. Les balises permettent de récolter des données sur les déplacements des oiseaux, leur choix de lieu pour nicher, les voies migratoires qu'ils utilisent. En bref, tout plein d'infos qui sont cruciales pour en apprendre plus sur cette espèce.
en ne balisant qu'un seul des deux oiseaux, on loupe une chance d'en apprendre plus. Et le 28 août, c'était retour à la maison pour nos deux jeunes. Le relâcher n'a pris que quelques secondes et on a vite perdu de vue nos deux femelles. Tout ce qui nous restait, c'était les données de la balise GPS. On les a donc suivies pendant 2 semaines. Mais le 15 septembre, on a été appelé en urgence car les agriculteurs avaient décidé de faucher la parcelle sans trop nous prévenir en amont. 5 personnes de la LPO Anjou se sont précipitées sur les lieux pour essayer de faire un suivi de fauche, mais les conditions n'étaient pas favorables. Les faucheuses roulaient trop vite, le sens de fauche favorable aux oiseaux n'était pas respecté. On a quand même vu des râles s'envoler, mais aucune certitude que ce soit nos deux jeunes. Malheureusement, les données de la balise GPS ont confirmé le décès de notre individu balisé. Avant la fauche de la parcelle, elle émettait une température corporelle normale, et à 2h du matin le même jour, la température corporelle avait chuté. On a reçu un dernier signal GPS qui montrait que la balise avait bougé, mais il y a de grandes chances que le cadavre ait juste été traîné ailleurs par un prédateur. Des salariés sont allés chercher la balise, mais ils ne l'ont jamais retrouvée. L'histoire ne finit pas comme on l'aurait voulu, mais c'était quand même incroyable de participer à ce sauvetage et ça a permis de développer des outils qui pourront nous être utiles dans le futur pour de potentiels nouveaux œufs de râle déjeuner. Il y a toujours un espoir que la deuxième femelle ait survécu, qu'elle ait réussi à entamer sa migration et peut-être même que sa bague sera repérée dans le futur. En tout cas, c'est sur cette note-là que je décide de vous laisser.
You're looking like a hangover that keeps getting worse. Are you really indestructible? 'Cause you got a way with words. Did you see it coming or was it just a big mistake? If you're listening in the future, can you tell me my sweet tooth? You're looking like you wanna be some kind of Jedi. Sweet tooth, getting loose and getting lawsuits by the dozen. Sweet tooth, who are you fooling with your trumped up talk? You big baby. Sweet tooth, Scooby-Doo ain't got a thing on you, but that's the way you roll. Roll, roll, that's the way you roll. Up your cronies, threw your toys out the pram, made the world into a circus till the curtain fell down. Sweet tooth, you're looking like you wanna be some kind of Jedi. Sweet tooth, getting loose and getting lost is by the dozen. Sweet tooth, getting loose and getting lost.